C'est l'heure de votre émission sur la découverte d'une région française, émission intitulée La Bougeotte, présentée par Christian Caillol, dont son slogan c'est « Bougez, mais bougez en France ». Bonjour Christian.
Et bonjour Francis, bonjour tout le monde.
Alors aujourd'hui, nous partons dans quelle région de France ?
Aujourd'hui, c'est le Berry, le pays des sorciers, des sorcières et des alchimistes.
Oula, ça fait peur tout ça.
Oui, l'alchimie, ça fait... c'est mystérieux. Voilà. Alors, mais pourquoi on dit le Berry, le pays des sorcières ? Écoutez, faites une petite recherche sur Google, tapez le pays des sorcières, qu'est-ce qui sort ? Le Berry. C'est vrai que, bon, il n'y a pas que dans le Berry où on a des sorciers et des sorcières, mais bon, c'est connu comme ça. Et le centre de ce pays, le cœur, c'est Bourges. Et le cœur le plus connu de Bourges, c'est Jacques Cœur. Alors, impossible de parler de cette région sans faire une parenthèse que je vais faire assez importante quand même, parce que ça en vaut le coup, sur l'histoire de Jacques Cœur.
Et tu as eu un coup de cœur
pour cette région. Alors comment, Jacques Cœur, comment on peut, dans une vie, monter si haut, tomber si bas et terminer banni de France
quand même, carrément.
Hein, c'est pas tous les jours ça. Né en 1400, devient grand commerçant. À partir de 1430, il fournit le roi, Charles VII, sa favorite, Agnès Sorel, et toute la cour en marchandises de luxe, denrées rares. Il possède 7 galets, on appelle galets ou... ça vient de galères, hein, des galéas, des gros bateaux, qui vont sillonner la Méditerranée jusqu'à l'Orient. À ce moment-là, il fallait 25 jours pour aller de Narbonne à Alexandrie, en naviguant très près des côtes pour éviter les pirates. Ensuite, il est anobli. Il devient grand argentier du roi, c'est-à-dire c'est le gestionnaire du trésor royal. Il développe des comptoirs un peu partout en France. Il fait le commerce de tout ce qui a de la valeur. Armes, épices, tissus, bijoux, soieries, fourrures, pierres précieuses. Incroyable. Il fait construire à Bourges un véritable palais. Dit-on, la plus belle construction civile gothique en France. Il l'a payé 100 000 écus d'or, ce qui représente pour nous rien du tout, mais je vais vous le dire, en euros, 40 millions d'euros. À l'époque, par rapport à la moyenne des Français d'époque, ouais, ça fait une grosse marche. Ouais. À 50 ans, il est richissime. Il est à la tête d'un empire colonial maritime vers le Moyen-Orient. Il prête au roi Charles VII des sommes colossales pour lui permettre de chasser l'anglais de France. Hélas, en 1451, c'est la chute, ça commence. Après la mort d'Agnès Sorel, donc une amie et la maîtresse du roi, on l'accuse de l'avoir empoisonnée, alors qu'elle est morte selon l'usage d'utilisation de mercure pour lutter contre une infection. Et donc, après la mort d'Agnès Sorel, alors qu'il n'y est pour rien, qui le protégeait, le roi oublie les services que lui a rendus Jacques Cœur. Il le fait emprisonner et condamner à mort pour lèse-majesté. Ses biens sont séquestrés. C'est là, au moment du séquestre ses biens, qu'on fait l'inventaire de tout ce qu'il possède et qu'on sait qu'il avait 7 bateaux. Le pape fait commuer sa peine en bannissement, plus qu'en condamné à mort. Après 4 années, il réussit à s'échapper, Jacques Cœur, et il trouve refuge donc à la cour du roi. Un an plus tard, il meurt sur une île grecque en Grèce, sans qu'on sache trop de quoi. Alors, les plus romantiques disent qu'il est mort de blessure dans un combat naval contre les Ottomans. Très certainement, il serait davantage mort de dysenterie. Enfin, c'est un petit mystère. Et là, la légende commence à se faire. On sait qu'il a manipulé beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Soi-disant, même de la fausse monnaie. Il possédait des mines d'or, de fer, de plomb, de cuivre et aussi d'argent. Ce qui lui aurait permis d'écouler des pièces d'or, des pièces d'argent du royaume, il les refondait et disait qu'elles venaient de son minerai, de ses mines. Sa passion et sa fréquentation des alchimistes laissent perplexe aussi, d'autant que cette science vient pour beaucoup de pays arabes et orientaux avec lesquels il entretenait le commerce. Le palais qu'il fait construire à Bourges, dont on vient de parler, il est truffé de symboles et de signes et de statues à double et triple sens qui ne sont pas innocentes. À cette époque, on peut dire que Bourges est la capitale de la chimie. Rien qu'à écouter le nom des rues, rue de la chimie, rue du mauvais secret, et la maison dite Escole d'Archémie, c'est-à-dire alchimie. À Bourges, quelques années plus tard, une autre famille, la famille Lallemand, fera fortune un peu de la même manière dans le négoce du luxe. Elle va construire, elle aussi, un hôtel orné de nombreuses statues, de motifs sculptés, de figures et d'inscriptions énigmatiques. Et surtout, il y a dans cette bâtisse 30 caissons, aujourd'hui indéchiffrables, qui sont propres au symbolisme de l'alchimie. C'est un étrange grimoire. Et à Bourges, autour du duc, le duc de Berry, c'est devenu un haut lieu d'alchimie. L'alchimie, elle fait rêver. Elle est si mystérieuse. Un de ses buts est la recherche de la pierre philosophale. Ses principes sont le soufre et le mercure. Il faut les séparer de la matière, les épurer, puis les remettre ensemble. Trouver un breuvage qui va rendre immortel et qui mettra fin aux souffrances. À la Renaissance, certains ingurgitent ce qui s'appelait de l'or potable. Non pas buvable, potable. Et que l'on mélangeait dans les potages ou dans des solutions alcoolisées, où l'or est dissous dans une eau qu'on appelle de l'eau régale. Alors là, c'est des termes. L'eau régale, c'est tout simplement un mélange d'acide chlorhydrique et d'acide nitrique. Bon appétit. Hein.
Je la laisse aussi.
Et donc, en fait, cet or qu'ils ingurgitaient est une des causes d'intoxication de nombreux membres de la noblesse de l'époque. Alors, l'alchimie, c'est aussi la recherche d'un élixir de longue vie, connu des seuls alchimiques, qui est un mélange beaucoup plus subtil que de l'or dans de l'eau. L'alchimie, c'est aussi la transmutation des métaux, la richesse et les honneurs. C'est enfin la transformation de l'âme vers la sagesse. Alors, comment expliquer, peut-on expliquer la fortune de Jacques Coeur uniquement par le commerce? Beaucoup y ont cru voir des racines d'alchimistes, ayant entretenu le doute lui-même. Tout ceci n'est que spéculation, parce qu'on n'a aucune preuve, mais enfin, on peut en douter. Il parle lui-même de lingots qui n'étaient pas d'or, mais de laiton doré. D'autres témoignent de sa fortune, à tel point qu'il faisait ferrer les chevaux avec de l'argent. On parle d'un secret qu'il aurait détenu, en échange duquel le roi lui aurait permis de frapper des pièces d'argent pur. On peut dire que sa vie reste bien mystérieuse. Avait-il découvert le secret de la transmutation du plomb en or? On peut être sûr qu'il a bâti sa fortune sur les monnaies. Ayant compris le jeu des métaux précieux, entre l'Orient avide d'argent et l'Europe avide d'or. Il échangeait, paraît-il, un lingot d'argent contre un lingot d'or. Une spéculation bien lucrative, non? Il avait multiplié par 10 le jackpot. Donc, un pays d'alchimistes et un pays de sorciers. Ne dit-on pas que les druides avaient choisi le Berry comme centre sacré des Gaules? Bien sûr, c'est pas la seule région à avoir abrité des sorciers et croire en croyances. Pourtant, ici plus qu'ailleurs, les pratiques occultes sont répandues. Depuis le Moyen-Âge, les populations isolées, crédules et superstitieuses ont fait perdurer le mythe de la magie. Les marais enveloppés d'épaisses brumes, les forêts obscures où vivent cachés des êtres mystérieux et inquiétants, ont sans doute entretenu les légendes parfois effrayantes. Et puis, au XIXe siècle, le pays s'appauvrit et déserté. Et les populations livrées à elles-mêmes, sans médecins, ont bien dû se débrouiller seules, en pratiquant une médecine du pauvre. Un peu partout, guérisseurs, rebouteux, barrent les brûlures ou les problèmes de peau en récitant des prières. Et dans ce contexte, pour ses romans, George Sand tirera à l'inspiration un champêtre et nous laissera en héritage la survivance des croyances, usages, superstitions paysannes et popularisera les sorcières du Berry. Dans les années 60 et 70, des conteurs ont entretenu ces différentes histoires fantastiques et fait du Berry une légendaire terre de sorciers. De nos jours, on se transmet encore de bouche à oreille les bonnes adresses de ces personnes qui possèdent un don ou un savoir. Peu importe comment elles parviennent à soulager, seul compte le résultat. Autrefois, sujet tabou, la sorcellerie est aujourd'hui classée patrimoine culturel. Des lieux d'art singuliers. Attention, là ça va dépoter. Là.
Dans ta vidéo qu'on peut rappeler, il y en a un paquet de lieux d'art singuliers.
Ben oui, au moins 3. Le premier, c'est la cathédrale de Jean Linard, 1931-2010. Alors là, c'est une construction délirante, difficilement descriptible, de carreaux polychromes émaillés. Alors c'est un voyage dans l'imaginaire. Au début, c'est une chapelle, puis une église. Et enfin, une cathédrale pour toutes les religions de la Terre. Commencée en 1983, Elle évoluera jusqu'en 2010, date de sa mort. Elle symbolise, d'après lui, les quatre saisons et on découvre divers personnages. Le Christ, aux portes de l'enfer, Mahomet, sur un triangle noir, Jésus, sur un triangle blanc, Mandela, dans la montagne, un poème, Mère Teresa, mais aussi une sorte d'hommage à Gaudi et au facteur cheval. Ainsi, Jean Linard rend hommage aux êtres qui ont compté dans sa vie. C'est une œuvre insolite, fantastique, à Neuville-deux-Clochers, département 18. Alors, vous pouvez voir ces images sur ma vidéo, sur le site Rando VTT Vidéo ou le site Radio Galaxy. Le titre de la vidéo, c'est « Le Berry de Haut-en-Bas ».
Deuxième curiosité.
Dans les lieux d'art singuliers, vous savez que j'aime bien ça, quand je peux trouver de ces artistes bruts, là, comme ça. La maison couleur du temps. Alors là, on est dans le département de l'Allier, à Vénas. C'est la rencontre d'un artiste peintre, photographe et poète. Sa maison, donc la maison couleur du temps, qu'il peint tous les 10 ans, il recommence à la peindre, peinte de dedans, de dehors. C'est une véritable œuvre d'art, baroque, flashy, onirique, complètement délirante, flamboyante. À l'extérieur, d'énormes poissons, une chatte de 3 mètres, aux yeux jaunes magnifiques, les volets en forme d'ailes, de papillons géants et multicolores, un feu d'artifice de couleur, un formidable décor de théâtre. Il faut découvrir l'intérieur. 4 pièces, une pour chaque saison, dans lesquelles Chop, c'est le nom de l'artiste, il tient son nom de peintre, il tient de Chopin, c'est un grand amateur de ce genre de musique. Alors donc, il s'enveloppe de nature, comme il dit. Il lui faudra 10 ans pour tout peindre. Ce sera ensuite le choix du mobilier, les tentures, les chandeliers, pendules, velours. Les premières années, il est insulté et rejeté par le village. Il faut dire qu'il est original, hein. Pas de télé, pas d'internet, pas de chauffage, pas de permis de conduire. Il se déplace en VTT. Lorsqu'il prend le train ou l'avion, on le voit sur ma vidéo, allez voir ça, Chop nous montre les tenues qu'il porte, des tenues du 18e. Voilà, comment passer incognito. Excentrique, mais cultivé, beau parleur. Il a été reçu dans de nombreuses émissions à la télé. Et Chop, il s'est construit un palais, le palais qu'il rêvait. Depuis son enfance, il vit sa vie comme il l'entend, au gré des saisons. J'ai considéré que j'allais toute ma vie, en peignant mes murs, mes plafonds, mes meubles, rivaliser de splendeur avec la nature fantastique qui m'y incite chaque jour. Je suis un dégustateur. La rythmique, c'est ainsi que parle Chop. Voilà. Il vous reçoit l'été, il nous a reçus gentiment. On a passé plus d'une heure, une bonne heure et demie avec lui, visiter toutes les pièces. C'est une histoire extraordinaire, ce gars. Hein. Il faut vraiment...
Il faut y aller.
Il faut vraiment y aller. Et donc, il nous dira aussi, on ne trouve le véritable bonheur d'émerveillement que dans la fraîcheur des jeunes années. Aussi, il faut-il les faire perdurer et s'amuser et jouer le plus longtemps possible comme les enfants. Voilà du Chop.
Philosophe presque.
Alors, il a créé un personnage de toutes pièces et il entretient le mystère. Il est talentueux, attachant. Il ne vous laissera pas indifférent. Un génie incompris, un doux rêveur, un artiste décalé, mais surtout un décalé de la vie. À voir et à entendre absolument. Voilà. Après avoir vu le Berry ésotérique, ensorcelé, singulier, décalé, voici maintenant le Berry antique.
Oula, ah. Là ça change tout.
Complètement. On fait un voyage de 2000 ans. On va à Argentomagus, à côté d'Argenton. Une agglomération romaine où les vestiges les livrent. Un théâtre de 6 à 7 000 places, une fontaine monumentale, alimentée par un aqueduc sous pression, un forum, 3 temples celtiques, plusieurs villas, une nécropole, ouvert au public, complètement c'est gratuit. Nous voici au cœur d'une ville du 2e siècle après Jésus-Christ, d'environ 5000 habitants. On croit que les Romains étaient du côté de Narbonne, Arles, Nîmes, et ils sont allés partout, hein, et il y avait des grandes villes aussi. Hein. Ça en est un exemple.
Oui, et on le voit bien d'ailleurs sur ta vidéo, il y a des lieux où tu as drôné tout ça.
Tout à fait. On voit les arènes, on voit un plan général. Oui. Et à côté de cela, là, il faut payer une somme modique. Bon, vous avez le musée, où il y a des objets qui ont été reconstitués ou d'époque. Et vous découvrez un peu plus, avec des expositions, certaines permanentes, d'autres temporaires. Alors, maintenant, je vais vous parler, pas d'un artiste, mais d'un grand collectionneur et surtout d'un amateur d'art. C'est le duc de Berry, Jean Ier de Berry, 1340-1416. C'est un fils, le troisième fils du roi de France, Jean le Bon. Il est frère du duc d'Anjou, Louis Ier, qui deviendra roi de France après son père, Jean le Bon. Il est très impliqué dans la lutte de la reconquête du Poitou. Mais ce n'est pas pour ça qu'on se souviendra de lui et qu'on se souvienne de lui. Pas plus que d'avoir remplacé son père, donc Jean le Bon, de le remplacer pendant 7 ans comme prisonnier des Anglais. Jean le Bon fait partie, je crois, des 2 ou 3 rois de France qui ont été prisonniers, comme François Ier et puis je ne sais pas quel autre. Donc Jean le Bon, prisonnier des Anglais, son fils, le duc de Berry, va le remplacer. On ne va pas non plus se souvenir de lui pour avoir été un mécène fastueux, amoureux des arts, de littérature, des beaux objets, en particulier sa collection de manuscrits. Il restera surtout dans la mémoire collective pour la réalisation de 6 livres d'heures. Ces manuscrits, les petites heures de Jean Berry, les très belles heures, les grandes heures, sont tous conservés dans les plus grands musées de France et du monde. Bibliothèque nationale, le Louvre, Metropolitan Museum d'art de New York. Ce sont des livres qui contiennent des poèmes, des prières, des calendriers, des textes pour chaque heure liturgique de la journée. Deux véritables manuels pour la pratique de la religion chrétienne, mais surtout des œuvres d'art de la culture française moyenâgeuse. Le plus célèbre, c'est les très riches heures du duc de Berry. Il est très connu pour ses enluminures. Ce sont ces images peintes ou ces lettres décorées que l'on trouve en titre de paragraphe ou en titre de livre. Et son calendrier annuel, qui est conservé au musée Condé à Chantilly. Il aura nécessité 9 ans de travail par les frères Limbourg, que personne ne connaît, mais bon, je cite le nom. Les enluminures des 12 mois sont des instantanés de la vie rurale de l'époque. Pendant ce temps, son frère, le duc d'Anjou, qui deviendra roi de France, fait réaliser l'exceptionnelle tapisserie de l'Apocalypse d'une longueur de 140 mètres et qui est conservée au château d'Angers. Le château d'Angers, vous verrez des images sur ma vidéo aussi. On est à ce moment en présence d'une famille de princes lettrés, mécènes d'œuvres d'art. Et le gisant du duc de Berry, il est visible dans la crypte de la cathédrale de Bourges sur mes images, en marbre blanc, avec à ses pieds un ours coussé sur ses pieds, puisque c'était l'emblème du duc de Berry. Alors, une histoire un petit peu extraordinaire qui nous rapproche de Midi-Pyrénées et qui est l'histoire de Jeanne d'Auvergne. Comment Jean Ier, duc de Berry, dont on vient de parler, avec ses livres des grandes heures, il a terrorisé Jean II, demi-fou, comte d'Auvergne, et il s'est emparé de ses terres. Avec sa complicité, après l'avoir fait boire, Jean II se résout à céder ou à vendre toutes ses terres sans verser aucun fonds. Il est laissé ruiné et inerte à moitié mort. L'affaire arrive aux oreilles du roi Charles VI, neveu du duc de Berry, qui promet de faire justice. Un compromis est trouvé. C'est de contraindre la fille de Jean II, qui s'appelle Jeanne d'Auvergne, âgée de 12 ans, d'épouser le duc de Berry, qui en avait 50, pas bien grave. Elle retrouve ainsi ses terres, mais le duc de Berry reste le suzerain. À la mort du duc, Jeanne épouse en seconde noce un personnage qui va la maltraiter et la dépouiller. Totalement ruinée, elle va se réfugier sur ses dernières terres, qui nous rapprochent de Midi-Pyrénées, c'est pour ça que je vous en parle, au Castellas de Saint-Sulpice-sur-Tarn. Là, elle va fabriquer de la fausse monnaie dans le souterrain qu'on peut visiter, souterrain du château, encore accessible de nos jours en s'adressant à l'office de tourisme. En principe, pour ce crime de lèse-majesté, le châtiment réservé aux faux monnayeurs, c'est le supplice de la marmite. D'ailleurs, on vous met dans de l'eau bouillante et on fait cuire. Elle va être graciée, peut-être pour avoir sauvé d'un incendie son neveu, le neveu du duc Charles VII, neveu du duc de Berry, lors d'un épisode bien connu sous le nom le bal des Ardents. Lors d'une soirée un peu arrosée, donc le futur Charles VII, déguisé, habillé avec des plumes, et puis il y avait des flambeaux, le feu se prend dans ses plumes, il a le feu sur lui. Et c'est donc Jeanne d'Auvergne qui éteint le feu avec sa robe. On voit sur des gravures, on la voit éteindre le feu avec sa robe. Donc peut-être qu'en reconnaissance de cela, on ne lui a pas fait subir le supplice de la marmite, mais on l'a juste épargnée et elle va reposer à sa mort à 46 ans, à côté de son premier mari, à côté du gisant du duc de Berry, dans la crypte de la cathédrale de Bourges. Un petit peu de nature. Vous voyez un passage de drone en début de ma vidéo sur des marais. Ce sont les marais de Bourges. Hein. Ce sont d'anciens marécages qui assuraient la protection de la ville. Après avoir alimenté pendant 3 siècles Bourges en fruits et légumes, ils sont devenus un des derniers marais potagers de France, avec ceux d'Amiens et de Saint-Omer. Un véritable petit paradis qui sert de poumon vert à la ville. Une originalité qu'on peut découvrir à vélo ou en barque. Mmh. Ou en drone.
Voilà. C'est moins fatigant en drone.
Alors, ce Berry, étonnant, non ?
Oh oui, on peut le dire.
Que retenir de tout ça ? Qu'est-ce que je retiens, moi ? Difficile à dire, hein ? D'autant qu'il ne faut pas oublier les nombreux châteaux, le château de Sarzay, du Hérisson, de Sagone, d'Ainay-le-Vieil, et surtout aussi l'insolite église de Menou aux fresques étonnantes de Georges Carrasco. La réponse, que retenir, c'est tout, il n'y a rien à jeter, je ne jette rien. Voilà. Mais c'est surprenant, une région où je ne m'attendais pas à trouver tout ça, il y a de quoi y passer beaucoup de temps.
Et dans ta vidéo, on voit aussi un ancien château qui est reconstruit à la tradition, je dirais.
Exactement. Alors, c'est le château de Guédelon. Ce n'est pas tout à fait le Berry. Je me suis un petit peu excentré. On est dans la Nièvre. Ça a fait faire un petit détour de pas grand-chose. Il est reconstruit comme ça se faisait à l'époque. Mmh. Voilà, tout se fait à la main. Il n'y a pas de grue. C'est une cage écureuil qui fait tourner, qui monte les charges. À main d'homme, enfin pied d'homme, puisque ça se fait à pied dans la cage. Les fers, les outils sont faits à la forge. Tout est fait à l'ancienne, tel que.
D'accord.
Château de Guédelon.
Qui peut se visiter, il me semble.
Ah oui, oui. Ouais. Oui, bien sûr, il y a du monde. Hein. Ouais. C'est quelque chose de connu.
Ouais, oui, exact.
Il nous reste à parler de la rando.
Oui, là tu t'es affûté les mollets, il me semble.
Alors la rando, elle est à la limite, elle aussi. C'est pas en plein centre du Berry, j'avais pas trouvé. J'ai fait ça à la limite Berry-Nivernais, dans une immense forêt. Il n'y a pas trop de difficultés, c'est relativement plat, mais très agréable, et puis surtout là, par beau temps, un régal.
Ouais. Beaucoup de forêts.
Oui, c'est très. On a notamment la forêt de Troncé. On voit en début de mes images un gigantesque arbre qui est dénommé le chêne de Saint-Louis, qui monte tout droit dans une immense forêt.
Oui, qui est un très vieux chêne, qui a combien, 300, 500 ans au moins ?
Ah, 100 ans près, il peut avoir 400 ou 500 ans.
Ouais. Et on n'a pas fini. Oh, l'aquarelle, c'est vrai, oui. L'aquarelle de Nadine.
Et alors, pour terminer, l'aquarelle, elle n'a pas pu s'empêcher, elle en a fait beaucoup. Hein. Mais j'ai choisi l'aquarelle qu'elle a faite, une reproduction de la maison de Chope, la maison couleur du temps. Elle est très réussie et c'était pas mal de boulot pour elle. Et elle est vraiment fidèle à la réalité. La maison de Chope, elle est comme ça. Alors, que dire de plus ? Le mois prochain, nous allons faire un grand écart du Rhône aux Alpes, entre les cimes et les lavandes.
Ça nous annonce le soleil d'été qui arrive à grands pas.
C'est ça, c'est ça complètement. La neige a fondu, voilà. Mais bon, on est des cimes aux lavandes.
Bon, super.
Voilà, mais en attendant, je vous dis, bougez.
Mais bougez.
En France. Voilà.
Merci Christian.
À bientôt.
À bientôt.